Chapitre 13. J'appelle Andy. Radar décide. Ragout. Garde-doigt. 1. Radar parut surprise de voir qu'on se levait alors qu'il faisait encore nuit, mais elle mangea son petit déjeuner, avec 3 autres comprimés cachés dedans, et gravit la colline jusqu'au 1 Sycamore Street sans se faire prier. Aucune lumière chez Madame Richland. Je montai au premier étage, ouvris le coffre et fixai le calibre 45 à ma ceinture en attachant l'étui autour de ma cuisse. Avec le pistolet automatique calibre 22 de Paulet dans mon sac à dos, j'étais un vrai Truman Sam. Dans le cellier, il y avait des pots de sauce à spaghettis vides. J'en remplis 2 de croquettes Origène, vissai solidement les couvercles et les enveloppai d'un torchon avant de les déposer dans mon sac, sous un t-shirt et un caleçon propre. Ne pars jamais en voyage sans des sous-vêtements propres. Encore un précepte de ma mère. J'ajoutai à tout cela une 10aine de boîtes de sardines King Oscar, que j'avais appris à aimer, un paquet de crackers et quelques sablés aux noix de pécan seulement, j'avais presque tout grignoté, et une poignée de lanières de viande de bœuf séché Perky Jerky. J'emportai les 2 dernières canettes de coca qui étaient dans le frigo. Je mis mon portefeuille dans le sac pour pouvoir glisser la grande lampe électrique dans ma poche arrière, comme précédemment. Vous pourriez estimer que ça ne faisait pas beaucoup de vivres pour un aller-retour de 100 km peut-être, et vous auriez raison, mais mon sac n'était pas très grand. Et puis, la femme aux chaussures avait proposé de m'offrir un repas. Elle pourrait peut-être compléter mes provisions. Sinon, je serais obligé de chercher de la nourriture. Une idée qui me remplissait à la fois d'inquiétude et d'excitation. Le plus gros problème, c'était le cadenas du cabanon. S'il était fermé, personne ne s'y intéresserait. S'il restait ouvert, quelqu'un pourrait avoir envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et cacher l'ouverture du puits sous des piles de vieux magazines, ce n'était pas le summum du camouflage. Je m'étais endormi avec un problème à la Agatha Christie, mais je m'étais réveillé avec une solution qui me paraissait satisfaisante. Non seulement le cabanon serait cadenassé de l'extérieur, mais une personne de plus serait prête à témoigner que j'avais emmené Radar à Chicago dans l'espoir de lui offrir un remède miracle. Cette solution s'appelait Andy Chen. J'attendis 7 heures pour l'appeler, en me disant qu'il serait déjà levé pour aller au lycée, mais après 4 sonneries, je compris que j'allais tomber sur la boîte vocale. Je réfléchissais au message que j'allais laisser quand il répondit enfin. Il paraissait agacé et essoufflé.
Qu'est-ce que tu veux, Reed? Je sors de cette putain de douche et je dégouline partout.
Oh, fis-je d'une voix de fausset. Le péril jaune est nu?
Très drôle, sale raciste. Qu'est-ce que tu veux?
C'est important.
Qu'est-ce qui se passe?
Il était sérieux maintenant. Écoute, je suis au Highball, à la sortie de la ville. Tu connais le Highball, hein? Évidemment qu'il connaissait. C'était un relais routier où on trouvait le plus bel assortiment de jeux vidéo de tout Sentry. On s'entassait dans la bagnole de quelqu'un qui avait le permis, ou bien on prenait le car quand on n'avait aucun conducteur sous la main, et on jouait jusqu'à avoir les poches vides, ou jusqu'à ce qu'on se fasse virer.
Qu'est-ce que tu fous là-bas? Il y a école aujourd'hui.
Je suis avec la chienne, celle qui te foutait la trouille quand on était môme, tu te souviens? Elle ne va pas très bien, mais il y a quelqu'un à Chicago qui aide les vieux chiens, paraît-il. Il les rajeunit, en quelque sorte.
C'est une arnaque, forcément. Ne sois pas idiot, Charlie. Quand les chiens sont vieux, ils sont vieux, point.
Tu veux bien la fermer et m'écouter? Il y a un gars qui veut bien nous emmener dans son van, Radar et moi, pour $30.
30?
Mais faut que j'y aille maintenant, sinon il va partir sans nous. Alors, j'ai besoin que tu ailles fermer la maison.
Tu as oublié de fermer ta...
Non, non! La maison de Monsieur Boditch.
Comment tu as fait pour aller jusqu'au high?
Le type va se barrer si tu ne la boucles pas. Va fermer la maison, ok? J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine. Et puis, comme si je venais juste d'y penser, ferme le cabanon aussi pendant que tu y es. Le cadenas est sur la porte.
Je vais devoir aller au lycée à vélo au lieu de prendre le car. Combien tu me files?
Oh, allons, Andy!
Je plaisante, Reed. Je ne te demande même pas de me sucer. Mais si quelqu'un me...
Personne ne te demandera rien. Et si jamais on te pose des questions, dis la vérité. Je suis parti à Chicago. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, je veux juste que tu ailles fermer la maison. Et le cabanon. Je passerai récupérer les clés quand on rentrera.
Bon, d'accord. Tu vas passer la nuit là-bas ou...
Probablement, peut-être même deux. Bon, faut que je te laisse, merci Andy. Je te revaudrai ça. Je coupai la communication et hissai mon sac à dos sur mes épaules. Je déposai le trousseau de clés de M. Boditch sur la table et mis Salès à radar. Au pied de la véranda de derrière, je m'arrêtai pour contempler le cabanon au fond du jardin. Avais-je vraiment l'intention de lui faire descendre ces marches étroites, de différentes hauteurs, en laisse ? Mauvaise idée, pour tous les deux. Il n'était pas trop tard pour renoncer. Je pouvais rappeler Andy et lui dire que j'avais changé d'avis à la dernière minute, ou que le conducteur de van imaginaire était parti sans moi. Je pouvais ramener Radar à la maison, déchirer la lettre posée sur la table de la cuisine et mettre à la poubelle le mail que devait recevoir Madame Silvius. Andy avait raison. Quand les chiens vieillissaient, ils vieillissaient, point final. Cela ne m'empêcherait pas d'explorer cet autre monde. Je devrais attendre simplement qu'elle meure. Je la débarrassai de sa laisse et marchai en direction du cabanon. À mi-chemin, je regardais derrière moi. Radar était toujours assise à l'endroit où je l'avais laissée. Je faillis l'appeler. L'envie me tiraillait, mais je ne le fis pas. Je continuai d'avancer. Arrivé devant la porte du cabanon, je me retournai de nouveau. Elle était toujours assise au pied des marches. Je ressentais le goût amer de la déception. Tous ces préparatifs, surtout mon idée de génie au sujet du cadenas, pour rien. Mais il n'était pas question de la laisser là, seule. Alors que j'allais rebrousser chemin, Radar se redressa sur ses quatre pattes et traversa le jardin d'un pas hésitant jusqu'à la porte ouverte du cabanon où je me trouvais. Elle renifla, méfiante. Je n'allumais pas les lampes à batterie, car avec son odorat, elle n'en avait pas besoin. Elle regarda la pile de magazines que j'avais déposée sur ce qui restait du cafard géant, et je vis sa truffe exercée tressaillir. Elle observa ensuite les planches qui couvraient le puits, et une chose stupéfiante se produisit. Elle trottina jusqu'à l'ouverture et se mit à gratter les planches avec ses pattes en poussant des petits jappements d'excitation. Elle se souvient, pensai-je. Et ses souvenirs doivent être agréables car elle veut y retourner. J'accrochai le cadenas au loquet et refermai partiellement la porte, laissant juste assez de lumière pour pouvoir me diriger jusqu'au puits. Il ne faut plus faire de bruit maintenant, Radar. Chut ! Les jappements cessèrent, mais elle continua à gratter les planches. Son impatience à descendre dans le puits me rassura quant à ce qui se trouvait à la sortie du couloir souterrain. Et d'ailleurs, pourquoi serais-je inquiet ? Les coquelicots étaient magnifiques et leur parfum délicieux. La femme aux chaussures n'était pas menaçante. Elle m'avait accueilli chaleureusement. Elle m'avait réconforté quand j'avais craqué et j'avais envie de la revoir. Elle voulait revoir Radar également. Et Radar veut la revoir, je crois. Couchée. Elle me regarda, mais resta debout sur ses pattes. Elle scruta l'obscurité entre les planches, leva les yeux vers moi, puis reporta son attention sur les planches. Les chiens savent se faire comprendre, et pour moi, le message était « on ne peut plus clair ». « Dépêche-toi, Charlie. Couchez, Radar !» Elle se coucha, très à contre-cœur, mais dès que j'écartai les planches, en V, elle se releva et dévala l'escalier, vive comme un chiot. Elle avait des plaques de poils blancs derrière la tête et sur le dos, près de la queue. J'eus juste le temps de les voir disparaître dans le puits. Et moi qui avais peur de lui faire prendre cet escalier. Amusant, non ? Comme le disait M. Neuville, mon professeur d'anglais, l'ironie, c'est bon pour la santé. 2. Je faillis la rappeler avant de comprendre que c'était une très mauvaise idée. De toute façon, elle ne m'écouterait certainement pas. Et si elle obéissait, si elle essayait d'opérer un demi-tour sur ces marches étroites, c'était la chute mortelle assurée. Je pouvais juste espérer qu'elle ne fasse pas un faux pas dans l'obscurité ou qu'elle ne se mette pas à aboyer. Cela ferait certainement décamper les cafards géants tapis dans les parages, mais cela ferait également s'envoler les chauves-souris, géantes, elles aussi. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais juste suivre le plan. Je descendis à mon tour dans le puits jusqu'à la taille, entre les deux planches en V. J'entrepris d'y déposer des paquets de magazines ficelés, comme si je m'emmurais vivant, tout en guettant un bruit sourd et un ultime aboiement de douleur. Ou bien, Si la chute ne la tuait pas sur le coup, de nombreux aboiements de douleur, tandis que, gisant sur le sol en terre battue, elle agoniserait à cause de mes brillantes idées. Je suais comme un porc pendant que je rapprochais les deux planches de chaque côté. Je glissais mon bras entre les murs de magazines, de plus en plus proches, pour saisir un dernier paquet. Je le posais en équilibre sur ma tête, comme une Africaine qui emporte un ballot de linge sale à la rivière, puis me baissais lentement. Le lot de magazines vint reposer sur le trou que j'avais laissé. Il était légèrement de travers, mais tant pis. Si Andy se contentait de jeter un coup d'œil à l'intérieur du cabanon avant de cadenasser la porte, ça irait. Évidemment, restait la question de savoir comment j'allais ressortir du cabanon, mais j'y réfléchirai plus tard. J'attaquais la descente en gardant l'épaule collée au mur incurvé, comme précédemment, et le faisceau de la lampe braqué sur mes pieds. Mon sac à dos me ralentissait. Je comptais les marches encore une fois et quand j'arrivais à 100, j'éclairais le fond du puits. Deux points lumineux inquiétants me transpercèrent lorsque le rayon de la lampe frappa la surface réfléchissante que possèdent les chiens à l'arrière de leurs yeux. Radar était en bas, saine et sauve. Et elle m'avait attendu au lieu de filer dans le couloir. Mon soulagement était immense. J'atteignis le fond du puits le plus vite possible, c'est-à-dire pas très vite, car je ne voulais pas que ce soit moi qui me retrouve couché sur le sol avec une jambe cassée. Ou deux. Je posai un genou à terre pour serrer Radar dans mes bras. En temps normal, elle n'avait rien contre un petit câlin, mais aujourd'hui, elle s'esquiva presque aussitôt pour se retourner vers le couloir. « Bon, d'accord, mais n'effraie pas les animaux !»« Chut !» Elle me précéda, sans courir, mais d'un pas rapide. Elle ne boitait pas, pour le moment en tout cas. Une fois de plus, je me demandais ce que contenait réellement ce médicament miracle, ce qu'il donnait d'un côté et reprenait de l'autre. Parmi les dictons préférés de mon père, il y avait celui-ci, « Un déjeuner gratuit, ça n'existe pas !» Quand on atteignit l'endroit que j'avais baptisé mentalement « la région frontalière », je levai le faisceau de ma lampe au risque de déranger les chauves-souris pour voir la réaction de Radar. Mais je ne vis rien du tout, et je commençais à me demander si l'effet disparaissait après une première exposition lorsque cette même sensation de vertige m'envahit. Cette impression de vivre une expérience extracorporelle. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, et très peu de temps après, j'aperçus l'étincelle de lumière devant moi, là où le couloir s'ouvrait à flanc de colline. Je rattrapai Radar. Je me faufilai entre les branches de lierre qui pendaient du plafond et contemplai les coquelicots. « Un tapis rouge, » pensais-je. « Un tapis rouge. » Nous étions dans l'autre monde.